Un auteur, une nouvelle.
Des histoires courtes racontées par des amoureux des mots. Voilà, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va vous proposer un voyage en mer. Je ne sais pas si ça vous dit, avec et sans tempête. Enfin voilà, on va essayer de vous charmer sur les eaux. Alors il y aura une nouvelle de Tove Jansson, dont on a déjà parlé, Hubert Selby Jr. et une autre de Jack London, bien sûr, avec ses...
Le fameux Jack London.
Le fameux Jack London, dont on fera une émission à part entière.
Avec grand plaisir.
Dans quelques temps, voilà. Alors, pour se mettre dans le bain, si on peut dire, bien, j'ai repensé à une chanson qui date d'il y a quelques années, quand même.
Oh, mon bateau.
Voilà. Alors, on va vous pas... C'est ça, vers au début, il y a le bruit de la mer, on entend les mouettes, tout ça. Donc, je vous laisse avec Eric Morena.
Hey, hop! Hey, hop!
Sur la route qui nous menait, loin du monde et des problèmes, la gazelle aimable, oh gracile de velour, j'ai vendu des bagambagues. Les mouettes m'écrient leur bonjour.
Bonjour.
Oh mon bateau. Tu es le plus beau des bateaux et tu me guides sur les flots. Qu'il y a de plus beau, tu es le plus beau des bateaux. Bravo en toutes les tempêtes, sifflant comme une alouette. Je
vole
vers de fabuleux rivages. Je serai bientôt roi. J'entends des rythmes sauvages. Les algues dansent autour de moi.
Hop là.
Oh mon bateau. Où est le plus beau des bateaux? Et tout me guide sur les flots. Vers ce qu'il y a de plus beau. Nu sous le ciel étoilé, les voiles gonflées de bonheur. Les poissons chantent en chœur.
Les crevettes,
les criolets.
Olé,
olé. Oh mon bateau. Tu es le plus beau des bateaux. Et tu me guides sur les flots. ce qu'il y a de plus beau. Tu es le plus beau des
Quel panache!
Ouais, hein, c'est incroyable.
Morena, Dario Moreno, hein, peut-être.
Bah, oui, oui, il y avait une similitude, en tout cas. Donc, voilà. Alors, je vous propose donc de commencer par une histoire qui s'appelle « Le bateau et moi ». Donc, qui vient d'un recueil de nouvelles qui s'appelle « L'art de voyager léger » de Tove Jonsson. Donc, le texte est lu par Viviane. Donc, c'est l'histoire d'une petite fille hein, qui a son bateau et qui va partir en mer.
Tout un programme.
Le bateau et moi. Pour mon 12e anniversaire, j'ai reçu en cadeau un canot à rames. Il mesurait 2,30 m de long et était bordé à clin. Quand on me demandait son nom, je disais juste « le bateau ». J'avais un projet pour « le bateau et moi ». Faire le tour complet de l'archipel Pellinge, les îlots inhabités et tout, les parties intérieures et extérieures, histoire de complètement l'encercler, et ce serait fait. J'ignore pourquoi c'était si important. Le périple pourrait me prendre 24 heures, alors c'était une bonne idée d'emporter un sac de couchage, mais sinon rien d'autre que du pain dur et du jus de fruits. Comme papa le dit, il ne faut jamais embarquer un seul objet superflu à bord de son bateau. Le départ était fixé au 20 août et cela devait rester un secret absolu. Je ne sais pas comment maman a eu vent du projet. Peut-être remarqua-t-elle que j'avais pris le sac de couchage dans la tente. Elle ne fit pas de commentaire, mais me laissa entendre qu'elle était au courant et qu'elle était de mon côté pour ce qui était de duper papa. Lui ne m'aurait pas laissé partir. Et je suis presque certaine que maman n'aurait jamais réussi à tromper son propre père, qui ne l'avait jamais autorisé à dormir dans une tente, ni même à porter un col de marin. Un siècle terrible. Quoi qu'il en soit, le bateau et moi étions parés au départ. Le vent était au sud-ouest depuis quelques jours et avait étiré les flots vers l'intérieur des terres. Le bateau mouillait à pleine mer jusqu'au câble de Bastin, et quand je le lançais, la quille glissa comme sur du velours. Dès qu'il atteignit la mer, il fut pris par la houle, mais je le maintins ferme par le plat-bord et attendis. Le ciel était blanc et vide, comme il l'est généralement avant le lever du soleil, et les mouettes s'agitaient dans les cieux. Maman arriva soudain en courant, un gilet au-dessus de sa chemise de nuit, pour m'apporter des sandwichs et une bouteille de pommac. « Dépêche-toi, » me lança-t-elle, « file avant qu'il ne se réveille. » Les départs ne se passent jamais comme on s'y attend. Nous fûmes confrontés à une grosse mer avec un fort vent de travers et j'avais le plus grand mal à garder l'équilibre. Je pressais les pieds sur le sol et ramais aussi vite que possible. Maman me fit longtemps signe depuis le rivage. Papa ne fait jamais des signes en mer. On est censé le faire que pour signaler qu'on est en détresse. Je prenais les vagues de face, mais compris rapidement que c'était une erreur. Il fallait que nous les contournions sacrément vite pour réussir à les franchir. Alors j'attendis que nous soyons dans un creux raisonnable, puis enfonçait complètement la rame gauche tout en tirant comme une folle sur la droite. En un instant, nous avions pivoté sur nous-mêmes et la houle nous prit en charge comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Tandis que le vent nous poussait vers la pointe la plus éloignée, je songeais soudain que la mer a vraiment besoin d'un bateau sur elle pour affirmer son pouvoir. Je veux dire, pour être plus puissante que tout. Peut-être a-t-elle également besoin d'île, à condition qu'elle soit petite. Et pourquoi pas d'une mouette dans le ciel, à condition qu'il soit sans nuages, bien sûr. Puis le soleil se leva et m'éblouit. Il transforma les embruns en couleur rose chair. Nous fonçâmes de l'avant, contournâmes la pointe, puis soudain nous nous retrouvâmes bord sous le vent. Tout était silencieux. Bien sûr, on entendait la mer, mais elle semblait distante, car maintenant le vent rugissait à travers la forêt voisine. Ici, dans les hauts fonds abrités, les arbres descendent jusque sur les rochers du rivage. Les îlots semblent voguer comme de petits bouquets flottants et absolument tout est vert. Je le sais, car je suis déjà venue. J'écopais, même si très peu d'eau était entrée dans le bateau, puis nous nous laissâmes dériver quelque temps. C'est l'endroit où vivent les oiseaux d'été, ces gens insouciants que papa méprise. Ils se lèvent tard dans leur résidence de vacances, descendent sur le rivage où se trouvent leurs pontons branlants peints en blanc et leur sauna, puis sautent dans leurs puissantes embarcations métalliques à moteur tape à l'œil. Papa n'a que dédain pour les bateaux en métal. Selon lui, ces jeunes rupins et leurs poules de luxe ne sont rien de moins que des criminels. Ils utilisent 20 chevaux juste pour le plaisir, mettant les vides tout le monde en danger, sans parler des filets des marins-pêcheurs. Bien sûr, je me souviens. La fille toujours installée aussi loin à la proue que possible, bronzée et heureuse, les cheveux au vent, ravie de la sensation de vitesse. Lorsqu'ils étaient passés en trombe, elle m'avait fait signe de la main, mais c'était il y a un bout de temps. Je continuais à ramer. La journée allait sans doute être très chaude et un orage s'annonçait. Petit à petit, les hauts fonds s'animèrent. Des gens voyageaient, pêchaient, se baignaient, jouissant de ce monde estival qui ne ressemble à rien d'autre. De jeunes enfants s'élançaient de partout sur des radeaux et des canots. Soudain, l'un de ces bateaux à moteur tape à l'œil surgit en projetant des vagues comme des arcs-en-ciel autour de son étrave et le rupin à la barre me lança « Salut, tu veux que je te remorque ?» Je ne m'abaissais même pas à lui accorder un regard. Un autre arrivait, je ravais de toutes mes forces et lorsqu'il passa en sifflant, je vis la fille aux cheveux volants à la proue et elle me fit signe. Je continuais à ramer. Ce n'était pas une fille bien, je le sais. Mais j'aurais quand même pu lui retourner son salut. Bien qu'en fait, non. Ces gens savaient-ils que leur comportement était ridicule? Sans doute pas. Étais-je injuste à leur égard? Probablement. Peu importe. Je continuais à ramer et à me rapprocher de l'étroit passage où les hauts fonds s'ouvrent sur le large. Après, les îlots se firent plus rares et la température baissa. Je me rapprochais à présent de l'étape la plus importante de mon périple et il fallait que je m'arrête pour réfléchir. Je jetai l'ancre et sécurisai le bout de la ligne dans la dame de nage. Je n'éprouvais pas le besoin de dormir. En revanche, je sortis les sandwichs de maman. Elle les avait emballés séparément dans du papier paraffiné et sur chacun d'entre eux, elle avait écrit « fromage, saucisse, etc. » sauf sur celui où elle avait mis « Vive la liberté ». Ridicule. Alors je me contentais de manger du pain dur avec son jus de pomme en regardant la lune qui commençait à monter dans le ciel. Elle était encore presque pleine et avait l'air d'un abricot séché. Son reflet sur l'eau s'étendait jusqu'au bateau, et à présent on pouvait à nouveau entendre la mer. C'est le point de bascule, c'est exactement l'endroit où le retour commence, et je pourrais dessiner mon itinéraire sur la carte côtière en le représentant comme une ample boucle de lasso lancée autour d'un archipel. J'arrive aux criques qui font face au large, ces lieux inhabités qui sont mon repère secret, car c'est moi qui les connais le mieux et les aime le plus. Je viens ici lorsque je me sens seule et surtout lorsqu'il y a du vent, ce qui est la plupart du temps. Il y a 5 criques et 6 caps, sans même l'ombre d'une cabane aussi loin que le regard porte. La cabine du pilote ne compte pas. J'avance lentement, au plus près de la côte, m'enfonçant dans les criques avant de contourner les caps. Je ne dois en sauter aucun, car c'est un rituel. Bien sûr, je ne peux m'empêcher de mettre en sécurité les objets rejetés par la mer en les bloquant avec 2 pierres, mais cela n'a rien à voir avec le rituel. C'est juste une chose que n'importe qui fait sans même y penser. Je m'apprête à présent à voir mon territoire du large pour la première fois. C'est important. Je levai l'ancre et me mis à ramer droit dans le chemin tracé par la clarté lunaire. Cette allée est évidemment une vision charmante par temps calme, mais lorsque la mer est grosse, c'est encore plus beau, car elle produit des éclats et des reflets dignes de pierres précieuses partout et on a l'impression de voguer sur une mer sertie de diamants. À cet instant précis, papa arriva. Je sus que c'était lui car je reconnus son penta. Il m'avait donc trouvé et maintenant, la question était juste de savoir s'il était fâché, soulagé ou les deux et si je devais le laisser parler le premier ou pas. Il coupa le moteur, vint se ranger le long de mon bateau, saisit le plat-bord et me salua. « Salut, répondis-je. Monte, je vais le remorquer. Et maintenant, je vais te poser la question une bonne fois pour toutes. Pourquoi faut-il que tu inquiètes ta mère ainsi ?» Il attacha le câbleau de mouillage. « Ton comportement est presque criminel. » Puis il redémarra le penta, ce qui coupa court à toute discussion. J'étais assise à la proue. Le canot dansait derrière nous, aussi léger qu'une biche, sans prendre la moindre goutte d'eau. Je savais que papa aimait piloter le penta en mer ouverte, alors je lui laissais ce privilège et me concentrais avant tout sur mon territoire que je voyais à présent du large. Plus nous nous en éloignions, plus je me rendais compte que, vu de loin, ce n'était rien d'autre qu'une étendue de côte finlandaise extrêmement ennuyeuse, que personne d'autre n'aurait jamais la moindre envie de voir, ce qui me convenait très bien. Ils pouvaient tous rester à leur place, s'ils ignoraient ce qu'était la beauté. Je retirai ma casquette, lâchai mes cheveux au vent et pensai à autre chose. Papa avait trouvé les sandwichs et les avait mangés. C'était une très belle nuit. Il commença à jouer et à faire de l'épate dans les vagues, en me jetant un regard de temps à autre, mais je feignis de ne rien remarquer. Le jour commençait à poindre. À l'extérieur de la crique qui abrite notre maison, il contourna Ulsten en une courbe aussi serrée qu'intelligente. Il gardait en permanence le câble de remorque lâche afin que le canot puisse atteindre la côte en douceur. Lorsque nous nous rapprochâmes de la colline, papa déclara « Ne fais plus jamais ça, tu es prévenu. » Nous nous souhaitâmes bonne nuit. La lumière gagnait rapidement en intensité. Le ciel était grand et blanc, comme il l'est généralement avant le lever du soleil.
Bien voilà, une belle histoire. Ne partez pas en mer.
À réécouter en podcast.
Voilà. Donc il s'agit de Tove Jansson. Dont nous avons déjà parlé dans une émission donc au mois de janvier. Donc pour rappel et pour ceux qui n'ont pas eu la chance bien sûr d'entendre cette émission, Tove Jansson est née le 9 août 1914 à Helsinki et elle est décédée le 27 juin 2001. Donc elle est écrivaine, peintre, illustratrice et dessinatrice de bande dessinée. Elle est donc finlandaise mais parlant suédois. Donc sa famille, membre minoritaire donc des Finlandais parlant suédois, est une famille d'artistes. Hein. Sa mère est une designer et illustratrice. Son père était sculpteur. Et donc ses frères sont aussi des artistes, hein, puisque père Olof Johnson est photographe et Lars Johnson est auteur et dessinateur.
Ce qui explique peut-être ses talents multiples d'ailleurs.
Bah oui, oui, oui. Hein, de... Alors en 1966, pour sa contribution en tant qu'auteur de livres pour enfants, elle va recevoir le prix Hans Christian Andersen. Alors elle est connue pour son œuvre Les Moumines, des livres illustrés pour enfants.
Son oui. Des genres de Barbe à Papa, hein, je te
oui,
disais.
C'est, voilà,
ça fait penser au Barbe à Papa, au petit dessin animé.
Donc, son premier livre, Moumine et la Grande Inondation, publié en 1945, fut suivi par un second en 1946, Une comète au pays de Moumine, qui lui apporta un succès immédiat. Elle écrivit également 6 romans et 5 livres d'histoires courtes, dont sa semi-autobiographie, La figue du sculpteur, qui est sortie en 1968.
Oui, un sacré personnage, hein. Je te disais tout à l'heure, une femme un peu féministe avant l'heure, portant pantalon, cheveux courts. Elle a été mariée, mais après finalement peu de temps, elle a vécu toute sa vie avec la même compagne, qui était graphiste elle-même. Donc à une époque où l'homosexualité n'était pas tolérée en Finlande, hein. Soit tu allais à l'HP, soit tu allais en prison, bon elle y a échappé. Et avant-guerre, je lisais qu'elle travaillait pour un journal satirique antifasciste finno-suédois, le magazine Gamme, et elle dessinait Hitler comme un bébé pleurant dans ses couches, donc pas trop froid aux yeux, la petite dame. Elle partageait bon, sa vie entre Helsinki et une petite île où elle passait ses vacances. Et j'ai relevé une anecdote amusante, c'est qu'il y avait une toute petite épicerie sur cette île. Et actuellement, l'épicerie existe encore, c'est presque un îlot. Hein. Mmh. Et c'est la petite fille de la dame qui connaissait Tove Jansson qui tient l'épicerie.
Qui tient l'épicerie.
Et qui disait, Tove Jansson ne voulait jamais manquer de 3 choses, de la liqueur, du tabac et des crackers au pain noir.
Bah, y a des choses essentielles comme ça dans la vie de chacun et sans quoi la vie n'est pas tolérable.
Voilà, les fondamentaux.
Donc là maintenant on va aller dans un tout autre univers, donc celui d'Hubert Selby Jr. Donc là c'est Philippe qui nous lit une histoire qui s'appelle Des baleines et des rêves, qui est extraite du recueil de nouvelles Chansons de la neige silencieuse. Donc on va écouter Philippe hein, maintenant.
Il y a bien longtemps de cela, un homme m'a dit que refuser de rêver équivalait à vendre son âme. J'étais jeune alors et je ne savais pas que ces mots allaient avoir en moi une résonance particulière et me marquer à jamais. Mais je me rappelle fort bien avoir cligné des yeux et hoché la tête, comme pour m'imprégner plus profondément de la véracité des propos qu'il me tenait grâce à ce simple mouvement. Et j'avais la tête pleine de rêves. De rêves. Et je rêve encore. Et la baleine est un rêve. Lorsque j'étais petit et terrien, jouer avec des bateaux était mon activité favorite. Une simple baguette dans l'eau faisait l'affaire. Je n'avais nul besoin de voile ou de vapeur, un peu d'imagination suffisait, et mes vaisseaux voguaient sur des mers lisses comme des miroirs, où étalaient les tempêtes les plus terrifiantes. Et je contemplais le reflet du soleil sur les lagons des mers du sud, ou bien, quand la brise ridait la surface de l'eau, le reflet tourmenté de la lune sur l'Atlantique. Et les digues et les jetées étaient mes terrains de jeu favoris, et je passais des journées entières sur le rivage, ou sur le môle, à regarder les navires de toutes sortes et de toutes nationalités, entrer et sortir du port, ou jeter l'ancre et stopper, tandis que des chaloupes amenaient les marins à terre. Je n'ignorais pas que les pilotes savaient très précisément où chaque navire devait mouiller l'ancre et à quelle distance les uns des autres, mais le fait qu'un port plein de bateaux au mouillage ne connût jamais de problème continuait néanmoins à m'émerveiller. Et je restais assis pendant des heures à regarder la marée modifier la position des navires tandis qu'ils tiraient sur leur ancre. Je regardais et je rêvais. Et puis, les années passant lentement, je me tenais au bout de la jetée, attendant qu'un remorqueur vînt s'amarrer, espérant que le capitaine me verrait et me crierait de monter à bord, qu'ils avaient besoin d'un mousse, et je sauterais sur le pont, et nous larguerions aussitôt les amarres et partirions à l'aventure. Et le soir, je restais allongé dans mon lit et je laissais mon imagination m'emporter où bon lui semblait. Et je voguais vers des lieux que j'avais vus en photo. Et j'imaginais notre navire affrontant les flots déchaînés du cap Hatteras ou naviguant parmi les îlots au large de la Floride. Autant de noms qui fleuraient bon l'exotisme et le romantisme. Et un jour, je sautais effectivement sur le pont d'un remorqueur et fis un aller-retour dans le port. Je vivais comme dans un rêve. Et un vieux marin se moqua gentiment de moi, et il me parla de sa vie à bord et de tous les pays qu'il avait vus et de tous les océans qu'il avait sillonnés, et il me parla de l'époque où il naviguait sur un baleinier, de l'allure des baleines quand elles fondaient les flots, de l'explosion qu'elles provoquaient en émergeant, du bruit assourdissant de leur énorme queue frappant la surface de l'eau. Et il imita même le cri d'une baleine. Le capitaine m'autorisa à pénétrer dans la timonerie et me laissa tenir la barre pendant une minute, mais je passai la totalité de ces quelques heures, ou presque, en compagnie du vieux marin à écouter, encore et encore, des histoires de baleines. Et pendant des jours et des nuits, je revécus cette journée, rêvant constamment d'apprendre aux baleines à danser. Vers l'âge de 15 ou 16 ans, je pris enfin la mer. Toute une vie passée à rêver de la mer prit fin. Et une nouvelle vie commença. Une vie dans laquelle j'allais enfin vivre mon rêve. Mais je continuais à le poursuivre, même s'il était devenu réalité. Je n'ai jamais navigué sur un baleinier, mais j'ai vu des baleines émerger à la surface de l'eau à maintes reprises, sans provoquer autre chose qu'un léger remous, l'air si paisible, si fort, si indomptable, et tandis que je les contemplais depuis le plat-bord, je jouais dans ma tête un air de concertina et de pipeau pour leur apprendre à danser. Et elles poussaient des cris de joie, et elles tournaient et virevoltaient dans l'eau, scandant le rythme de la musique de joyeux battements de queue. Et lorsque le moment était venu, elles faisaient entendre un dernier cri et reprenaient le cours inéluctable de leur navigation, et je reprenais le mien, accoudé au plat-bord, regardant les remous s'éloigner, ayant le sentiment qu'elles emportaient une partie de mon être et que je conservais une partie du leur. Et elles devinrent, en quelque sorte, partie intégrante de mon rêve, et d'étrange façon, elles contribuaient à l'alimenter autant que moi-même. J'avais besoin d'elle pour rêver. Et il en est de même aujourd'hui. Et je rêve encore, même si je ne suis plus qu'un terrien installé à Snug Harbor depuis quelques années déjà. Nous sommes tous d'anciens marins ici, et nous parlons des nombreux ports que nous avons connus, des innombrables pays et peuples que nous avons vus, et dont beaucoup ont changé de nom des dizaines de fois. Mais je reste seul aussi souvent que je le peux à regarder le port, un port qui était autrefois plein de bateaux de toutes sortes et qui n'abrite plus guère qu'un navire de temps en temps. Il en va de lui comme de toute chose, il a changé. Mais mon rêve n'a pas changé et je le poursuis toujours. J'ai navigué si longtemps et recousu tant de voiles que l'extrémité de mes doigts est aplatie et dure. Et j'ai halé sur les manœuvres tant de fois que mes mains sont aussi rugueuses que du chanvre de manille. J'ai gravi des enfléchures sur des mers démontées et me suis assis sur l'écoutille d'un cargo tout neuf, secoué par les trépidations des machines. Des souvenirs, rien que des souvenirs, des images qui aident à passer une journée. Mais elles ne durent qu'un temps. Mon rêve, ma vision les chasse. Je ferme les yeux et j'entends la musique. Et elles arrivent. Elles nagent autour de moi en dansant, en chantant. Oh, comme c'est beau de voir l'eau glisser sur leur dos brillant et luisant. Et bien que leur taille soit monstrueuse, elles ne font que rider la surface de l'eau en fendant les flots de mer sans bornes. Et les mains en porte-voix, je leur crie un joyeux « Bonjour, mes amis !» Et elles agitent la queue en guise de réponse. Et nous dansons. Et nous rions. Et cette chose qui s'appelle la mort n'existe plus, supprimée par notre unicité. Et je sais que, tant que mon cœur et cette partie intemporelle, colossale et éternelle de moi-même seront comblés par mon rêve, cette vision des baleines dansant avec moi seule la vie existera, la vie aussi grandiose, aussi forte, aussi belle, aussi pleine de douceur et de joie que mes amis, et là où elles iront, j'irai aussi, et nous serons inséparables, et ma vie sera la leur, et la leur sera la mienne, et nous ferons toujours partie du même rêve.
Voilà.
Quelle imagination.
Alors, on peut lire hein, sur la quatrième de couverture du recueil de nouvelles « Chansons de la neige silencieuse ». On trouve les anges déchus du rêve américain, chez qui parfois, au milieu de l'errance, surgit l'expression fugace et poétique du bonheur. Une délicieuse nuit d'amour sans lendemain, la chaleur d'un manteau ou le confort d'une salle de cinéma. Et quand tout aura disparu, restera la chanson de la neige silencieuse.
Waouh. Poète. Hein.
Donc, né à New York, à Brooklyn, en 1928, Hubert Selby quitte l'école à l'âge de 15 ans pour s'engager dans la marine marchande où son père, orphelin, avait travaillé. Atteint de la tuberculose à 18 ans, les médecins lui annoncent qu'il lui reste 2 mois à vivre. Il est opéré, perd une partie de son poumon et restera 4 ans à l'hôpital. Lors de la décennie suivante, Selby, convalescent, est cloué au lit et fréquemment hospitalisé à la suite de diverses infections du poumon. Il dit « C'est à l'hôpital que j'ai commencé à lire avant d'éprouver le besoin d'écrire. » Donc, incapable de vivre une vie normale à cause de ses problèmes de santé, Selby dira aussi « Je connais l'alphabet, peut-être que je pourrais être écrivain. » Grâce à sa première machine à écrire, il se lance frénétiquement dans l'écriture. Alors, Hubert Selby est l'auteur, entre autres, de Last Exit to Brooklyn, adapté au cinéma par Uli Edel en 89, Le Démon, Le Saule et Retour à Brooklyn, adapté aussi au cinéma par Darren Aronofsky en 2000, pour lequel il est également co-scénariste sous le titre de Requiem for a Dream. Dans ces deux films, il fait d'ailleurs une brève apparition.
Oui, alors voilà encore un homme qui n'a pas eu une vie très simple, hein, entre la drogue, l'alcool,
la maladie. Donc, hein, qui était quand même...
La maladie, je lisais qu'il a fait les frais de l'expérimentation de, tu sais, la streptomycine, c'est le traitement contre la tuberculose, sauf qu'à l'époque, lui avait ses traitements sous forme de première expérience, et à chaque fois qu'il prenait des grosses doses de streptomycine, ça ne devait pas être bien au point, il devenait temporairement sourd, muet, aveugle. Donc, il a dû traverser quand même des moments très difficiles. Et après, tu en as parlé, il a acheté cette fameuse machine à écrire, mais apparemment, il est resté des jours devant la machine, rien ne venait. C'est le mystère de l'inspiration des écrivains quand même.
Et puis,
un beau jour, il a commencé à taper sur sa machine et c'est venu.
Voilà, il n'y avait plus l'angoisse de la page blanche.
Peut-être.
Bon, enfin, une vie pas facile, voilà, quand même.
Non, il était en HP aussi, enfin, etc. Quoi.
Bah,
une
vie
chaotique, un peu.
Donc, voilà. Donc, on peut le voir hein, dans le film Requiem for a Dream, donc, qui a été très connu voilà, à l'époque, et qui représente quand même l'univers des toxicomanes de façon assez trash, quand même. Hein. Donc, voilà. Alors, maintenant, on va partir dans un tout autre univers, celui de Jack London. Et Didier va vous lire un texte qui s'appelle « Un typhon au large des côtes du Japon ».
Un typhon au large des côtes du Japon. Les 4 coups du quart du jour venaient de sonner. Nous finissions à peine de déjeuner lorsque l'angle arriva au matelot de quart de se tenir prêt à mettre en panne et tout le monde aux chaloupes. « Bâbord, bâbord toutes !» cria le capitaine. Carguez les huniers, allez le grand foc, bordez le foc au vent et amenez la misaine goélette. Et ainsi, le 10 avril 1893, le schooner Sophie Sutherland était en panne au large des côtes du Japon, non loin du cap Jirimo. Il y eut quelques instants de précipitation et de confusion. 18 hommes manœuvraient les 6 chaloupes. Les uns levaient les garants, les autres lançaient les amarres. Les patrons des embarcations arrivaient avec leurs compas et des barils de galères, et l'armement portait les provisions. Les chasseurs, avec leurs toiles cirées et leurs moufles, ployaient sous le poids de 2 ou 3 carabines, d'un fusil et d'une lourde boîte de munitions, le tout vite arrimé dans les chaloupes. Le dernier ordre donné, on partit avec 6 avirons pour regagner les positions. Comme nous avions l'embarcation au vent, nous avions à faire un plus long parcours à l'aviron. Les 3 premières chaloupes sous le vent eurent bientôt toutes établi leur voile et faisaient route vers le sud et l'ouest. Le schooner se tenait sous le vent à elle, de sorte qu'en cas d'accident, elles auraient un vent favorable pour le rejoindre. La matinée était splendide. Cependant, notre pilote secoua la tête d'un air de doute et contemplait le lever du soleil. Il murmura « Soleil rouge au matin, marin se méfie ». Le soleil avait en effet un éclat trompeur. Sa clarté blanche et son aspect moutonneux, comme une tête de nègre, avaient quelque chose de déconcertant et d'inquiétant qui disparut bientôt. Au loin, vers le nord, le cap Jérimo dressait sa pointe noire, menaçante, semblable à quelque monstre sorti de l'abîme. La neige de l'hiver, commençant à fondre, couvrait encore quelques places et formait des taches éblouissantes balayées par un vent léger qui soulevait de petits tourbillons avant de s'élancer vers la mer. D'énormes mouettes se levaient lentement, battaient des ailes dans la brise, frappaient leurs pattes palmées sur la surface de l'eau et s'étiraient longuement avant de prendre leur vol. À peine le clapotis de l'eau cessa-t-il qu'une envolée d'oiseaux de mer s'échappa avec un bruit d'ailes et s'éloigna contre le vent, rejoindre quelques baleines qui s'ébattaient lourdement en lançant des jets pareils à l'échappement d'une machine à vapeur. Le cri rauque, discordant, d'un perroquet de mer heurtait l'oreille et donna l'éveil à plusieurs phoques devant nous. Ils s'éloignèrent en débandade, bondissant hors de l'eau. Une mouette au vol lent, réfléchie, dessina de larges courbes autour de nous. Et, souvenir du pays, un petit moineau impudemment perché sur l'avant, la tête dressée, gazouillait joyeusement. Bientôt, les chaloupes atteignirent les bancs de phoques, et bang, bang, les coups de feu se répercutèrent au loin. Le vent se leva peu à peu. Vers 3 heures, ayant 12 de phoques au fond de la chaloupe, nous étions à nous demander s'il fallait continuer ou retourner lorsque le signal du rappel hissé au mât de misaine du schooner nous apprit que le vent s'élevait et que le thermomètre descendait. Le capitaine s'inquiétait même de la sécurité des chaloupes. Nous partîmes donc vent arrière avec un seul ris dans notre voile. Le patron, les dents serrées, s'agrippait à l'aviron de queue. Son regard inquiet se portait tantôt à l'avant, sur le schooner, lorsque nous montions sur une lame, tantôt sur l'écoute, tantôt à l'arrière, où le bruit du vent sur l'eau annonçait une grande rafale qui menaçait de nous capeler. Les vagues menèrent alors une danse effrénée, s'amusant aux bonds les plus extravagants et dans la clarté blanche, elles se poursuivaient rageusement par-ci, par-là, en haut, en bas, partout jusqu'au moment où une énorme masse d'eau verte à la crête écumeuse s'éleva du fond de l'océan avec un bruit de sanglots et les cacha à notre vue. Cela ne dura qu'un instant. Immédiatement, de nouvelles vagues aux formes diverses se reformèrent. Elles se glissèrent dans un rayon de soleil. Chaque sillon, petit ou grand, chaque gouttelette avait l'air d'argent fondu, car l'eau, perdant sa couleur verte, se transformait en flots argentés. Éblouissant, qui disparaissait aussitôt pour se reformer, basse turbulente, en vagues sombres qui s'élevaient et déferlaient sans trêve. Cette fougue s'apaisa, cette clarté argentée disparut quand le soleil fut voilé par de gros nuages noirs, précurseurs de la tempête, rapidement amoncelés à l'ouest-nord-ouest. Nous atteignîmes bientôt le schooner. Dernier à bord, en quelques minutes, les phoques furent écorchés, les chaloupes et le pont lavés. Ensuite, nous descendîmes près du feu ronflant sous le gaillard d'avant pour nous laver, changer de vêtements et apprécier enfin un dîner confortable et chaud. Sur le schooner, on avait hissé les voiles, car il fallait couvrir 75 milles pour gagner le sud avant le matin et retrouver les bancs de phoques dont nous nous étions éloignés durant ces 2 jours de chasse. Nous avions le premier quart de 8 heures à minuit. Peu après, le vent souffla en tempête. Le capitaine, allant et venant sur le banc de quart, sut qu'il n'aurait guère de repos cette nuit-là. Les huniers furent bientôt cargués et serrés tandis qu'on amena le clin phoque. À ce moment, la mer devint très grosse, les vagues déferlant jusqu'au pont, le balayant à briser les chaloupes. À la 3e heure du quart, on commanda de les retourner et de les amarrer pour le mauvais temps. Manœuvre qui nous occupa jusqu'à la fin du quart. Ensuite, nous fûmes relayés. Je descendus le dernier au poste au moment où l'on serra la brigantine. En bas, tout dormait, sauf notre novice, le maçon, qui se mourait de consomption. Les soubresauts frénétiques de la lampe projetaient une lueur pâle, tremblotante, sur l'avant et donnant une teinte dorée aux gouttes d'eau qui ruisselaient sur les cirés jaunes. Partout, des ombres très noires semblaient aller et venir. Elles avaient l'air de lambeaux de manteaux, tombant de pont à pont pour s'engloutir, tel un dragon, dans l'ouverture d'une caverne plus noire que les rêves. Quand la lumière pénétrait dans ces coins obscurs, le schooner roulait plus lourdement pour fuir et retomber dans le noir. Le mugissement du vent sifflant dans les agrès arrivait à l'oreille, assourdi, semblable au lointain passage d'un train sur les traverses d'un pont ou d'une grève. Tandis que le bruit des lames qui se heurtaient sur l'avant semblait presque briser les barreaux et le border tant il résonnait dans le poste. La membrure, les épontilles, les cloisons craquaient et crissaient sous l'effort du navire, étouffant le râle du mourant qui agonisait dans sa couchette. Le mât de misaine travaillait dans son emplanture et faisait tomber une pluie de poudre floconneuse avec un mugissement qui s'ajouta au fracas de la tempête. Des filets d'eau coulaient des bites du gaillard d'avant et se mêlaient aux petits ruisseaux qui tombaient le long du pont pour disparaître dans la cale. Aux deux coups de cloche du quart d'après minuit, l'ordre fut lancé du haut du gaillard. « Tout le monde sur le pont, réduire la voilure !» Alors les matelots ensommeillés se jetèrent en bas de leurs couchettes, tombèrent dans leurs vêtements cirés, bottes de mer, et se précipitèrent sur le pont. Quand il entendit cet ordre jeté dans cette froide nuit de tempête, Jacques murmura avec un ricanement qu'il ne vendrait pas sa ferme pour aller vivre sur mer. Sur le pont, le vent soufflait avec une violence inouïe, et ceux qui venaient de quitter le poste étouffant le ressentaient davantage. Il semblait se dresser tel un mur, vous empêchant de tenir sur les ponts qui se dérobaient sur vos pieds, vous coupant la respiration par ces formidables rafales. Le schooner était à la cape sous son foc, sa misaine goélette et sa grand voile. Nous commençâmes à amener la misaine et à la serrer. La nuit sombre rendait notre manœuvre plus difficile encore. Cependant, bien que ni étoiles ni rayons de lune ne puissent percer la masse opaque des nuages qui fuyaient devant la tempête, la nature vint peu à peu à notre secours. Une clarté douce émanait de l'océan en furie, car dans les puissantes lames de myriades d'animalcules projetaient de petites lumières brillantes et phosphorescentes qui menaçaient de nous couvrir d'un déluge de feu. À mesure qu'elle montait et s'amincissait, la crête des vagues s'incurvait, prête à se briser. Elle se brisait sur le bastingage avec un mugissement, rejetait les marins dans toutes les directions et épandait une masse de lumière qui laissait dans les recoins des paillettes tremblotantes. Ensuite, un nouveau paquet de mer les balayait pour reprendre leur place. Parfois, ces paquets de mer se succédaient avec une telle rapidité et un tel grondement de tonnerre qu'ils remplissaient notre pont jusqu'au bastingage et se déversaient ensuite dans les dalles. Pour prendre un ris dans la grand voile, il nous fallait fuir devant le vent sous un foc réduit et pendant cette manœuvre, le vent soulevait une mer si grosse qu'il nous fut impossible de lofer. Alors il fallut louvoyer. Nous filâmes sur l'aile de la tempête à travers l'écume volante. Une formidable embardée à tribord, puis à bâbord, projetèrent le schooner à l'arrière en le soulevant presque. Nous ramenâmes le grand foc sans conserver aucune toile. Depuis que nous fuyions, le bateau n'embarquait plus, mais les vagues continuaient à se briser sur lui, violentes et rapides. C'était une tempête sans pluie. Seule la force du vent faisait tourbillonner dans l'air des gouttelettes qui montaient jusqu'aux barres de hune, retombaient en vous coupant la figure comme un couteau et vous empêchaient de voir à 100 mètres en avant. La mer avait pris une teinte brune et de longs rouleaux, lents et majestueux, se formaient sous le vent en montagnes liquides écumeuses. Les bons sauvages du schooner, comme il avançait, vous éreintaient. Parfois, ils s'arrêtaient presque. Puis, comme s'ils grimpaient une montagne, ils roulaient rapidement de droite à gauche et au moment d'atteindre le sommet d'une grosse lame, ils se raidissaient, s'arrêtaient un moment, comme effrayés devant le précipice ouvert devant lui. Alors, telle une avalanche, il se précipitait en avant et retombait comme martelé de 1000 coups de bélier, son avant englouti jusqu'au bossoir, son arrière couvert d'écume laiteuse qui pénétrait partout à travers les écubiers, par-dessus la lisse. Le vent s'apaisa, et vers 10 heures, il fut question de lofer. Nous dépassâmes à vapeur, 2 schooners et un 4-mâts goélette qui portait le minimum de toile, et à 11 heures, établissant la brigantine et le foc, nous lofâmes. Une heure après, nous mettions le cap vers l'est pour regagner le banc des phoques. En bas, 2 hommes cousaient dans un linceul le cadavre du maçon qu'on allait jeter à la mer. Et ainsi, par la tempête, le maçon rendit l'âme.
Voilà. Ouais. Ça finit tristement pour le pauvre petit maçon.
Alors, il y a pas mal de termes propres à la marine à voile. Mais qu'est-ce qu'un schooner, Mireille ?
Ah, alors un schooner, donc bien sûr, j'ai regardé. Voilà. Donc un schooner, en fait, c'est le terme anglais pour une goélette, tout simplement. Voilà. Et donc une goélette, c'est un voilier qui est équipé de 2 à 7 mâts, qui est apparu entre le 16e et le 17e siècle, et qui connut bien son apogée entre les 18e et 19e siècles.
Ah oui, Christophe Colomb, c'était des goélettes,
hein,
il me
semble. Ouais,
la Pinta, la Nina, la Santa Maria.
Alors d'ailleurs, les services du pilotage de San Francisco, créés au milieu du 19e siècle, à l'époque de la ruée vers l'or, par les pilotes de la côte Est, adoptèrent également ce gréement. Les goélettes militaires de la jeune marine des États-Unis jouèrent un rôle aussi décisif dans la guerre de sécession grâce à leur qualité nautique de premier ordre, notamment pour la vitesse. Parce que les goélettes allaient...
Ah oui, beaucoup de voiles.
Voilà, puis allaient beaucoup plus vite que les autres bateaux.
Des beaux bateaux.
Alors, pour en revenir à Jack London, donc ce texte, un typhon au large des côtes du Japon, a été le premier qu'il ait publié en 1899. Alors Jack London, il est né John Griffith Chaney le 12 janvier 1876 à San Francisco. Il est écrivain américain dont les thèmes de prédilection sont l'aventure et la nature sauvage. Donc sa mère, Flora Wellman, abandonnée par son amant qui ne voulait pas d'enfant, tente de se suicider. Mais quelques mois après, elle va épouser John London, un veuf, père de 2 enfants. Et donc plus tard, pour le distinguer de ce père, on appellera l'enfant Jack. Voilà, donc ce qui fait qu'il se retrouve avec un nom tout à fait différent de...
Absolument, l'identité à reconstruire.
De départ... Alors, en 1893, à peine âgé de 14 ans, Jack va s'embarquer sur le Sophie Sutherland pour aller chasser le phoque au large des côtes du Japon. Il en tirera la matière de son premier récit, donc voilà, qu'on vient de vous lire ici.
À 14 ans, c'est quand même très jeune,
c'est ce que je te disais.
Il faut être drôlement déterminé et attiré par la mer.
Et puis, puis être costaud et
dans
résistant,
des conditions de vie.
Parce que c'est quand même pas...
Épique.
Pas facile. Mais il va faire tout un tas de boulot difficile, hein, puisqu'il va travailler dur dans les usines, puis suivre les vagabonds le long des voies de chemin de fer.
Ah oui, il a tout fait. Hein.
Il va participer à la marche des chômeurs sur Washington. Il sera emprisonné à Niagara Falls pour vagabondage. Il va participer donc à la ruée vers l'or, au Klondike. Il va s'inspirer donc de toutes ses aventures pour écrire ses nouvelles et ses romans. Il devient socialiste et lit beaucoup Nietzsche, Darwin, Spencer... Il a tiré aussi de ses lectures et de sa propre vie de misère l'inspiration pour de nombreux ouvrages qui vont être, pour la plupart, quand même très engagés. Alors, il est bien sûr l'auteur de L'Appel de la forêt et d'autres romans célèbres comme Cro-Blanc, Le Talon de fer, dont certains, comme Martin Eden ou Le Cabaret de la dernière chance, sont largement autobiographiques. Il va écrire également plus de 200 nouvelles, dont 175 seront publiées de son vivant. Et il va écrire aussi pas mal d'articles de journaux,
Oui, il était journaliste, il a même été reporter à Londres et correspondant de guerre en Corée. Moi, ça m'épate, tu vois, de passer du côté mer, travail sur les bateaux hyper dur, et puis quand même à voir que c'est des gens tels que Jack London ont l'énergie d'être dans l'intellect quand même, d'étudier des écrivains difficiles, d'écrire.
Bah oui,
quelle énergie, tu te dis vraiment.
Alors d'ailleurs, on parle de lui dans une bande dessinée de Corto Maltese, écrite par Hugo Pratt, où justement ça se passe en Sibérie, là, en Russie, et il rencontre Rasputin, tout ça. Et donc il y a Jack London qui est là, qui fait un reportage.
Il a même travaillé dans une conserverie de saumon où il travaillait 18 heures par jour.
Oui, il a été pilleur d'huîtres.
Ça, c'est une belle profession.
Donc, une vie incroyable, quoi. Et courte,
puisqu'il est mort
à 40 ans. Après, il est atteint d'urémie, donc c'est une insuffisance rénale. Et donc, il prend des médicaments pour atténuer la douleur. Et pour avoir pris une trop forte dose de médicaments, en fait, il va s'éteindre le 22 novembre 1916 à Glen Helen, en Californie.
Ouais, c'est fou. Hein. Alors, il a même repris des études après toutes ses aventures, tous ses métiers en usine, des métiers très difficiles. Et il est admis à l'université de Californie à Berkeley. Donc, il abandonne parce qu'il a peu d'argent. Il a été dans le Grand Nord. Il a contacté.
Mais je crois que quand il est à l'université, il va réussir à faire un programme de 2 ans en 6 mois.
Il faut 4 mois. Ouais, c'est ça. Il a été atteint du scorbut, une maladie terrible où la peau du palais dans la bouche décolle par manque de vitamines. Enfin, on se demande. Après, il est allé dans les mers du Sud. Après, il a acquis un ranch en 1908, mais il en était absent 6 mois par an.
Voilà, puis son ranch avait brûlé, alors il l'a reconstruit après.
C'est incroyable, il est parti pour le Mexique, payé par le magazine Colliers pour couvrir le conflit entre le Mexique et les États-Unis. Et d'ailleurs, il y a eu un film ça n'a rien à voir. Il y a un film qui a adapté L'Appel de la forêt avec Harrison Ford. Ça, je voulais te le dire tout à l'heure.
Oui, il y en a L'Appel de la forêt, il y a au moins 5-6 films.
Donc, il a inspiré les cinéastes.
Cro-Blanc, pareil, il y a plusieurs versions.
Cro-Blanc, je l'ai eu en prix d'école.
Ah. À l'époque, on avait encore des prix.
Des prix, hein. Prix de, j'ose pas te dire de quoi, mais... Donc, je me dis, une force vitale quand même, une grande curiosité d'esprit, un désir de connaissance... Et je résiste pas, si tu m'autorises à le faire, à le citer, parce que effectivement, dans de telles conditions de vie, reprendre des études à différents moments de sa vie, c'est quand même étonnant. Donc voilà ce qu'il disait. En ce qui concerne les études, je suis constamment en train d'étudier. Le but de l'université n'est que de préparer à une vie entière d'études, mais moi je n'ai pas eu cette chance. Mais je me retrouve au même point en quelque sorte. Il n'y a jamais eu de soirée que je sois sorti ou non, dont je n'ai passé les dernières heures dans mon lit en compagnie de mes livres. Tout m'intéresse, tout. Le monde est si riche. Mes principaux domaines d'études sont scientifiques, sociologiques et moraux, ce qui comprend bien entendu la biologie, la science économique, la psychologie, la physiologie, l'histoire, etc., etc., sans limite. Et je m'efforce aussi de ne pas négliger la littérature. Donc ça, c'est extrait d'une lettre adressé à sa maison d'édition en janvier 1900. Donc, quel homme dont on reparlera.
Voilà, donc on va lui consacrer toute une émission. Et c'est vrai que ses principaux thèmes, donc il y a bien sûr tout ce qui tourne autour du Klondike, enfin la ruée vers l'or et tout ça. Donc là, il a écrit plusieurs romans.
Oui, il y a plusieurs pistes.
Par rapport à ça, il y a tous ces récits
d'aventure, en mer.
Voilà. Il y a tous ces récits dans le Pacifique, sur les îles du Pacifique, et puis aussi il y avait un quatrième thème.
La nature, la forêt aussi.
Ouais, ouais, ouais.
Le Grand Nord.
Oui, mais ça, c'est avec la ruée vers l'or, et tout ça. Et puis, oui, après, sur les vagabonds, voilà. Donc
les
là, il a écrit...
Vagabonds du rail, ouais.
Voilà, hein, donc il a écrit pas mal de choses là-dessus.
C'est fou,
que ce soit
aussi,
des nouvelles ou que ce soit des livres.
C'est inspiré de son vécu.
De
suivre les rails là, sur des distances énormes, c'est étonnant aussi,
ouais,
ça.
Oui, après, ils sont... c'était des... On voit ça dans certains films, qui montent dans les trains de marchandises et puis qui suivent comme ça.
L'errance sur le rail.
Oui. Donc voilà. Et bien j'espère que ces trois nouvelles vous auront plu, ça vous donnera envie de...
On vous a mené en bateau, mais dans le bon sens du terme.
J'espère. Donc, on en a fini, donc c'est un petit peu court. Alors, ce qu'on vous propose, c'est de réécouter Eric Buenrena, parce que, il dit...
L'exotisme.
Donc, la prochaine émission, ce sera sur Noël,
Noël. Hein,
c'est le thème de Noël.
Les circonstances. Bientôt.
Bientôt, alors. Donc, bonne fin de journée, de week-end, de mois, tout ce que vous voulez. Voilà, à bientôt.
Du monde et des problèmes, j'ai fui.
Il fuit
comme la gazelle aimable, au gracile des velours. J'ai vendu des bagambagues. Les mouettes m'écrient leur bonjour. Oh mon bateau, tu es le plus beau des bateaux, et tu me guides sur les flots, vers ce qu'il y a de plus beau, tu es le plus beau des bateaux. Bravo en toutes les tempêtes, come una luete, je vuol vers de fabuleux rivages où je serai bientôt roi. J'entends des rythmes sauvages, les algues dansent autour de moi.
Hop là.
Oh mon bateau, tu es le plus beau des bateaux, et tu me guides sur les flots, vers ce qu'il y a de plus beau, tu es le plus beau des bateaux. Le ciel étoilé, les voiles gonflées de bonheur, les poissons chantent en chœur,
les crevettes,
les criolets,
olé,
olé, au bon bateau. Sur les flots, vers ce qu'il y a de plus beau, tu es le plus beau des bateaux. Tu es le plus beau des bateaux.
Tcha tcha tcha. Un auteur, une nouvelle.
Des histoires courtes racontées par des amoureux des mots.